Devine qui vient dîner. Michel Durand-Valade.
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Que l'on soit croyant ou pas, les lieux sacrés, enfin certains en tout cas, et de manière très nette, confèrent à leurs visiteurs une paix, une sérénité particulière dont il est bien difficile de dire d'où elle surgit. La lumière peut-être, la pierre, les colonnes s'il y en a, l'espace, les sonorités, cette espèce de résonance feutrée par le respect, l'odeur souvent, l'odeur des bois anciens, cirés parfois, un encens, ou des encens évaporés, l'odeur de la poussière des siècles écoulés. Donc, tout ça peut-être, enfin, c'est vraiment difficile de dire parce que c'est pas ça seulement. D'autant que dans ces lieux-là, le regard est sans cesse sollicité par des gravures, des inscriptions, des sculptures, des peintures belles, mystérieuses, dont la beauté ne lasse pas mais dont le sens, la plupart du temps, échappe. Alors, je pensais bien, pas complètement naïve, que les architectes bâtisseurs de ces lieux anciens avaient sans doute un rôle dans l'atmosphère spéciale de ces lieux sacrés, mais je ne pensais pas que ce rôle était à ce point primordial. Et je sors à peine, j'ai passé 10 heures à lire aujourd'hui, je sors fascinée de la lecture d'un livre absolument merveilleux. J'en sors émue, parce que c'est une histoire, j'en sors enrichie, parce que c'est d'une culture formidable, et évidemment j'en sors avec un regret, celui de mon propre manque de curiosité, parce que la collégiale de Saint-Ursanne, et c'est d'elle dont il s'agira aujourd'hui, Saint-Ursanne, donc magnifique petit bourg jurassien, eh bien je l'ai visité il y a quelques années avec ce sentiment de paix, de beauté, d'équilibre, mais personne ne m'a prise par la main pour m'en dévoiler les secrets à l'époque. Aucun Alessandro n'est venu chatouiller mon amour propre et mes connaissances pour m'ouvrir la voie d'une œuvre finalement extraordinaire et gigantesque. Bonsoir, Jean-Claude Gailly, fais-nous ça donc un peu. Fais-nous une petite ambiance de collégial à Saint-Ursanne. Voilà, si vous mettiez le casque, Stéphane Claire, bonsoir. Vous entendriez, alors vous allez nous dire si c'est à peu près ce qu'on peut entendre dans la collégiale de Saint-Ursanne ou pas du tout. Vous n'entendez rien du tout, vous? Oh, bah alors ça, c'est dommage. Votre invité peut-être. Ça, c'est curieux, on n'a rien dans le casque. Mais Jean-Claude Gailly va venir voir pourquoi vous n'avez rien dans le casque. On va peut-être pas garder tout le temps cette réverbération, mais parfaitement merveilleuse. Hein, mais alors, est-ce qu'on a quelque chose dans le casque là? Ah, il faut changer de casque. Hop, c'est ça, c'est moderne. Voilà. Est-ce qu'on entend ce genre de choses à peu près dans la collégiale, ou est-ce que c'est moins important?
Ah oui, c'est très impressionnant même.
Hein? On y est là, non?
Ah, carrément.
C'est à peu près ça, l'ambiance de la collégiale?
Oui, parce qu'il n'y a pas énormément de monde là-bas.
Non.
Heureusement pour ceux qui
s'y intéressent. En revanche, il n'y a pas de saxophone dans la collégiale.
Oui, ça rend bien l'ambiance.
Ça vous plaît? On le garde?
On le garde, on peut le garder, pourquoi pas.
Stéphane Claire, ah bah vous allez entendre, vous prenez un casque, vous avez une invitée que vous nous présenterez tout à l'heure. Ça vous plaît aussi? C'est pas mal, non? Vous n'entendez pas?
Si, c'est impressionnant.
Oui. Ah bah oui. Donc vous êtes, disais-je, l'auteur de ce livre que j'évoquais à l'instant, intitulé « Saint-Ursanne, secret d'un livre de pierre ». On nous dit que c'est 10 ans de travail, moi je suis persuadée que c'est bien plus que ça, c'est toutes les années antérieures à ces 10 ans de travail, années à accumuler des savoirs multiples, parce que pour comprendre un tel édifice, il faut aimer l'histoire, l'astronomie, la symbolique, les mathématiques, la géométrie, la théologie, l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la physique. En bref, il faudrait être un homme d'un autre siècle, à savoir un héritier assez direct des savants grecs ou égyptiens ou sumériens, je ne sais pas. C'est votre cas, Stéphane Claire?
Allez, beaucoup plus de modestie, juste beaucoup de curiosité et beaucoup de ténacité.
Alors énormément de curiosité, pardonnez-moi.
Et encore plus de ténacité, parce que 10 ans... À partir d'une page blanche, il fallait être un peu fou pour rentrer dans cette aventure.
Ouais. Alors, nous allons, je ne sais pas d'ailleurs dans quel ordre parler de ce livre, mais auparavant, de toute façon, j'aimerais que vous nous présentiez votre invité, ce qui sera plus simple, et puis nous en parlerons tous les trois.
Avec plaisir, on est ce soir avec Amalita Brutus.
Bonsoir Amalita. Bonsoir. Brutus.
Et
quel beau nom d'ailleurs, au passage. Amalita Brutus, oui. J'ai cherché, je me dis d'où ça peut venir. Ça vient d'où?
Alors, Amalita, c'est d'origine espagnole ou portugaise.
Ouais.
Et puis Brutus, mon père est d'origine haïtienne.
Voilà, Amalita Brutus. Donc c'est, enfin, ça pourrait être un personnage de votre roman à un moment quelconque.
Absolument.
Donc Amalita Brutus, présentez-la nous. Donc.
Mais en fait, mon choix s'est porté sur Amalita en raison des circonstances de notre première rencontre. Et je pense que certains de vos auditeurs ont vécu quelque chose de similaire quand vous faites 2 heures de route pour aller voir un édifice magnifique et que vous arrivez avant tout le monde. Le soleil brille, la lumière est parfaite. Il n'y a personne, c'est le cliché attendu. Et tout d'un coup, il y a une énorme verrue, là dehors, sur la façade, faite d'un échafaudage d'aluminium et de grands draps plastiques. Et, et oui, il y a un chantier.
Je la sens un peu responsable du truc.
Alors, au milieu de la verrue, il y a Amalita Brutus avec ses collaborateurs. Et je me souviens que la première fois, je lui ai lancé un regard noir. Mais vraiment noir, parce que très égoïstement, ça m'empêchait de travailler. Et pour moi, de l'avoir à mes côtés ce soir, c'est une manière aussi de porter un hommage à toutes les personnes qui s'occupent de notre patrimoine, parce que c'est un métier qui est un petit peu les petites mains de l'ombre. Le travail n'est pas facile.
J'imagine, et sur des échafaudages à plusieurs mètres de hauteur.
J'imagine que ceux qui ont repeint le plafond du narthex de Romain Mottier, c'était des volontaires tirés au sort parce qu'il fait froid.
C'était des prisonniers. C'était ça ou l'échafaud. Ils ont choisi finalement la peinture du plafond.
C'est en tout cas pas très confortable. Et quand ils repartent, les visiteurs sont là et ils ont l'impression de voir un édifice à travers 1000 ans d'histoire. Alors qu'en fait, ce qu'ils voient, c'est le résultat
du travail de ces gens. Ouais.
Et c'est là que c'est fabuleux comme travail, c'est qu'on ne voit pas que c'est neuf. C'est-à-dire que ça rend vraiment la chorégraphie d'origine et c'est un travail remarquable. Et d'autant plus pour l'étude de la collégiale, ça m'a été d'une aide vraiment essentielle. Donc c'était ma manière de rendre hommage à tous ceux qui, de par le monde, conserve notre patrimoine et le garde pour les générations futures.
Amalita Brutus,
je suis très émue. Hein,
vous pouvez.
Vraiment.
Vous êtes donc restauratrice d'œuvres d'art et vous êtes notamment occupée de la rénovation du porche sud de la collégiale de Sainte-Ursanne.
Voilà, oui, donc je suis restauratrice d'art. Je suis installée depuis maintenant une dizaine d'années donc dans le canton du Jura à Porrentruy, où j'ai créé mon atelier de restauration d'art et d'analyse des matériaux et on m'a... je dirais, donner cette magnifique opportunité de m'occuper de la restauration donc du porche de cette collégiale. Mmh. Donc c'est un travail qui a démarré il y a, je dirais, trois ans par une grande phase d'études, ce qu'on appelle l'étude préliminaire, donc de comprendre pourquoi on avait ce type de dégradation et puis de faire un diagnostic, hein, un état de conservation. Et à partir de ce diagnostic, de pouvoir proposer une intervention tout en tenant compte de la valeur. Là, on a un joyau juste exceptionnel, hein, qui est du XIIe siècle, qui conserve de la polychromie dont certaines parties sont, je dirais, encore du XIIe siècle, mais dont la plupart sont plutôt du XIIIe, XIVe siècle. Mais dans la globalité, le portail est, je dirais, intact jusqu'à nos jours. Donc, mmh. Ce qui est assez exceptionnel.
Vous parliez d'analyse des dégradations. Elles sont de quelle nature, précisément, alors ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est que le portail a été restauré il n'y a pas très très longtemps, dans les années 80, où on a vraiment mis en évidence, enfin mis à jour la polychromie qui était camouflée, cachée par des croûtes de pollution, saleté. Et c'est, je pense vraiment à ce moment-là, mis à part les études d'un architecte nef qui avait fait un relevé sur la polychromie par petit grattage. Mais je crois que c'est vraiment dans les années 80, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment encore une polychromie originale. Donc il y a eu tout un énorme travail de nettoyage, de décagement, de mise à jour de cette polychromie. Et on est aussi dans un site, je dirais, à l'arrière, il y a la colline, il y a le Doubs, donc on a des gros problèmes d'humidité, de remontée capillaire, des problèmes de sel. Donc il y a eu toute une grosse campagne d'études qui avait été faite dans ces années. Et en fait, quand on a repris, disons, cette restauration il y a 3 ans, en reprenant, je dirais, la documentation qui avait été faite dans les années 80, on s'est vite rendu compte qu'en fait, on se retrouvait, mis à part qu'on avait plus autant de croûtes de pollution et de saleté, mais qu'on retrouvait le même type de dégradation avant la restauration de 80. Donc il a fallu essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé en l'espace, je dirais, à peine 30 ans, qu'on se retrouve dans une même situation. Donc il y a le site, malheureusement, qui est, on ne peut pas mettre le portail sous cloche, je veux dire, l'eau est là, les intempéries et
la
tout.
La neige, le vent, tout ça.
Et puis, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que dans ces années 80, on a appliqué une résine qu'on pensait miraculeuse, résine synthétique, qu'on doit quand même reconnaître, qui a fixé, je dirais, la couleur au support, la pierre, mais qui est devenue, je dirais, irréversible, qu'on ne peut plus enlever et qui forme maintenant actuellement une croûte totalement imperméable, donc qui empêche, je dirais, l'évaporation de l'eau. Donc là, c'est actuellement, c'est toujours un très grand problème.
Voilà. Vous êtes arrivé tout à l'heure, juste avant l'émission, avec une photographie.
C'est un relevé.
C'est une photographie de ce Porsche, des couleurs éblouissantes, mais qui ne sont pas les couleurs que l'on voit de fait à Saint-Ursanne, en vrai.
Non. Alors, si vous voulez, ce relevé a été fait, donc c'est l'étude d'Albert Neff, qui a, quand il a certainement été sur le site, donc il a dû voir un édifice très, très sombre, très noir.
On va sortir tout doucement de la collégiale, si vous êtes d'accord, parce qu'il fait frais. Il fait frais dans les collégiales.
Toujours.
On va aller prendre un tout petit peu l'air de l'extérieur.
Et en fait, j'ai fait une étude, c'est-à-dire qu'il a gratté avec. Il explique dans un texte où il a gratté avec son canif et il a découvert de la couleur. Donc, il s'est amusé à faire, je pense, plein de petits sondages un petit peu partout sur tous les différents éléments et il les a reportés. En fait, fait un relevé. En fait, comment devait être la polychromie. Donc, ce qu'il explique, c'est une des couches qu'il a mis en évidence, par manque de temps, il a vu qu'il y avait d'autres couches dessous, mais il s'est arrêté sur cette période-là qui est, je dirais, la période du XIIIe ou XIVe siècle.
Il serait évidemment impensable aujourd'hui que de restituer ces couleurs. D'abord, je pense que ça ferait hurler les populations. Et puis en plus, non, c'est plus pensable du tout que d'appliquer ces polychromies sur ce type de bâtiment.
Non, l'intervention, alors si vous voulez, par rapport à ce relevé donc, qui est très, des couleurs très vives, donc certainement à l'origine c'était de cette intensité-là, simplement avec le temps, la patine, donc les choses se sont assombries, les pigments, il y a certains pigments qui se sont même oxydés, qui se sont ternis. Donc si vous voulez, si on prend ce relevé et qu'on se place face au portail, on va retrouver, je dirais, en tout cas le 60%, on retrouve ces motifs. Donc son relevé est très, très précis et juste.
Les motifs, oui, mais pas les couleurs.
Les couleurs sont simplement un peu plus adoucies, patinées.
Mm-hmm.
Voilà. Mais autrement, quand on a fait donc cette phase d'étude, on a pris des petits prélèvements dans différentes phases, dans des différentes zones de couleurs. Donc il y a certains rouges qui sont des ocres rouges, mais il y en a aussi des rouges qui sont mélangés avec du cinabre, avec du minium, donc c'est très vif. Simplement, c'est des pigments avec l'air, avec l'humidité, se ternissent et s'oxydent, donc ont un aspect de surface beaucoup plus brunâtre.
Mm-hmm. Dernier petit exercice obligé, Malita Brutus, avant qu'on écoute le premier titre, c'est de la même manière qu'il vous a rendu hommage tout à l'heure. Joli. Je ne vous demande pas de rendre hommage, mais vous parviendriez à nous faire, tel que vous le percevez, le portrait de Stéphane Clair. Oui, tel que vous le percevez.
Alors écoutez, on m'a présenté ce livre par des collègues qui m'ont amené son livre sur mon bureau, sur ma table. Donc je veux dire, j'ai commencé à parcourir d'abord avec beaucoup de plaisir et puis un peu en souriant. Je trouvais ça assez sympathique, les petits personnages qu'on retrouve. Qu'on retrouve aussi dans l'historique. Je veux dire, ils sont pas tous. Je veux dire, pour être vrais, pour être réels.
Mm-hmm.
Donc pour moi c'est un très très bon orateur. En plus, en approfondissant, je dirais le livre, la méthode mise au point, l'identification du cahier des charges du constructeur. Donc là, j'ai commencé à gratter un petit peu plus, puis à commencer à comparer. Et puis, alors c'est vrai que moi, j'ai passé 3 ans devant ce portail avec, en l'observant, le nez dessus. C'est vrai qu'on peut s'imaginer
on peut s'imaginer plein de choses,
mais et puis c'est vrai que des fois tout le monde nous dit qu'on a une patience incroyable, mais là je trouve que c'est un travail, enfin je pense qu'il faut être un fou d'arithmétique
déjà
et puis beaucoup aimer les vieux cailloux
beaucoup
et puis donc en tout cas très impressionnée par ce travail. Et puis donc maintenant, ce que j'ai vraiment envie, c'est de confronter par rapport à nous ce qu'on a pu mettre en évidence au niveau des matériaux, toute la connaissance, je dirais, mais matérielle. Là, il y a une vision, une iconographie, une nouvelle interprétation qui est totalement nouvelle par rapport aux historiens d'art.
Parce que vous y avez appris des choses, finalement.
Alors moi, j'ai appris... moi, je suis pas historienne de l'art, donc moi, c'est vraiment les matériaux. Donc
dans
là,
matière,
j'ai vraiment, oui, c'est vraiment la matière. Donc là, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. Et puis, c'est vrai que on fait souvent appel aux historiens d'art pour essayer pour l'iconographie, pour comprendre. Et puis, c'est vrai que par exemple, comme l'histoire le chapiteau du loup, quoi, ça, juste absolument impressionnant. Donc,
on va y revenir,
je me réjouis. Enfin, puis j'espère qu'il y aura une suite et une collaboration parce que je trouve qu'il y a des tas de choses
à mettre en
vraiment,
commun.
Vraiment, j'étais en tout cas. Super heureuse qu'on m'ait apporté ce livre et puis qu'on ait pu se rencontrer et faire une conférence.
Au demeurant, quelle est votre formation, Stéphane Clerc ?
C'est un peu le problème, c'est que je suis ni historien, ni archéologue.
C'est rien de tout ça.
C'est un bien, nobody. En fait.
Ah, là, vous êtes un humaniste, comme on disait dans des siècles précédents.
je vous fais confiance.
D'accord, faites-moi confiance. On va se retrouver très très vite pour parler de cette collégiale et puis surtout de ce livre. Je vous propose d'écouter Pierre Lautonne, il est suisse, comme si de rien n'était.
Sur la plage, les gens sont heureux. Étendu sous juillet et la terre peut bien tourner sans eux, comme si de rien n'était. Oh les filles, à ce qu'il paraît, elles font ça exprès quand elles arrangent comme ça. Et leurs cheveux défaits, comme si de rien n'était. Thank you. c'est pas vrai à nous deux. On peut rêver sans peine. Comme si de rien n'était.
C'était Pierre Lauton. Alors, Saint-Dursan, secret d'un livre de Pierre aux éditions Gurganus. Il faut d'abord dire que c'est un livre, je l'ai dit, mais je le répète, d'une extraordinaire érudition. Mais alors, une érudition que vous avez eu le, que vous avez su distiller sous la trame, non pas d'un, mais de deux romans, d'une certaine manière. C'est écrit en deux livres, des livres qui sont en miroir, l'un construit pendant que l'autre déconstruit ou déduit. Enfin, disons que le second part de la fin, part d'aujourd'hui, pour essayer de remonter aux origines, et il parvient. Mais on va commencer par le premier livre. Nous sommes au 7e siècle, à Saint-Ursan, en la compagnie de plusieurs personnages historiques. On ne va pas faire le détail parce que c'est une histoire relativement compliquée qui nous échappe. Moi, je ne savais pas qui étaient les Neustriens, les Austrasiens, les Burgondes. Oui, on en avait entendu parler, mais c'est vrai que les Austrasiens et les Neustriens, c'est ça, hein ?
Oui, c'est ça.
Pas du tout. Qui étaient ces gens ?
C'était en fait les trois.
C'était ces sauvages.
C'était les trois royaumes mérovingiens, oui. qui se partageaient un petit peu le centre nord de la France, ce qui correspondrait à tout ce qui est à l'est de Paris, Paris y compris.
Vous y mettez une carte, donc c'est très clair. Voilà. On voit exactement comment se découpe. Et puis on voit où est Saint-Ursan, à la frontière.
Oui. Oui.
Des Burgondes et des Neustriens.
Absolument, dans une zone un peu frontière.
Oui.
Et curieusement, c'est souvent ce genre de zones qui sont assez exposées aux conflits. Et Saint-Ursan a eu cette chance extraordinaire, et nous avons cette chance extraordinaire, d'avoir un édifice qui a échappé, finalement, à toutes les vicissitudes de l'histoire de ce point de vue-là. D'autres n'ont pas eu cette chance. Ça a été complètement, grâce à la neutralité de la Suisse, épargné lors de la dernière guerre mondiale. Donc on a vraiment sorti carrément de 1000 ans en arrière deux édifices. La collégiale du 10e au 13e siècle. Et puis ce qu'on a retrouvé sous l'église paroissiale, l'édifice premier, en fait, en pierre, qui datait du 7e siècle.
Et qui était le premier ? Il n'y en avait pas eu un autre avant ? Un machin en bois ? Un truc avec trois pierres ou quatre pierres consacrées ou...
Alors, probablement quelque chose en bois.
Du côté de chez les Gaulois, les Celtes, je ne sais pas d'ailleurs. Je ne sais pas qui traînait par là à cette époque-là.
Disons, j'en sais rien. Disons que ça renvoie à la question de la réalité historique de Saint-Ursan.
Mm-hmm.
Parce que son hagiographie est anonyme.
Alors, Saint-Ursan, Ursan le Saint, donc.
Ursan le Saint, tout à fait, oui. Donc, on n'est pas tout à fait sûr de la véracité historique de sa présence. Mais il y a eu quelqu'un, de toute façon. Il y a eu quelqu'un pour choisir cet endroit et pour poser les prémices de ce qui allait devenir le conébium. Et puis, par la suite...
Qu'est-ce que vous appelez le conébium ?
Le conébium, c'est en fait une petite communauté qui va s'installer. C'est un peu dans la lignée des premiers monastères colombaniens. Colomban, je le rappelle, qui est un moine irlandais, qui a vraiment ravivé au 7e siècle le rayonnement du christianisme depuis l'Irlande.
Qui a fondé le monachisme, quasiment.
Alors, qui s'est en tout cas inspiré du monachisme oriental, et qui l'a mis à la sauce irlandaise, c'est-à-dire une sauce très forte.
très épicée.
Très épicée.
À base de whisky, essentiellement.
Et elle était tellement épicée que le troisième abbé de Luxeuil va gentiment aller vers la règle bénédictine, qui est un petit peu plus, on va dire...
souple.
Oui. Plus...
Encore que la règle bénédictine n'est pas une souplesse formidable, mais c'est un peu plus acceptable,
absolument.
Un peu plus urbaine, on dira.
Donc ce qui était important, c'était de pouvoir parler à la fois de l'édifice d'origine et puis de la collégiale qui allait se construire 5 siècles plus tard, avec tous les mystères qu'il y a, parce que entre ces deux bâtiments, il y a un premier point commun, c'est qu'ils s'orientent de la même manière.
On va évidemment parler de toutes ces questions d'orientation, etc. Mais j'aimerais d'abord qu'on revienne sur les quelques personnages historiques, essentiellement, parce que je suppose que le jeune élève, Lucius, est une invention.
C'est juste.
On peut évidemment supposer qu'il aurait pu exister, qu'un jeune homme appartenant à la petite bourgeoisie locale aurait été dépêché sur le chantier pour y faire un peu son apprentissage, son père s'en débarrasse. Bref, mais mettons Lucius de côté, mais c'est Wilhelm. Alors, Wilhelm, on imagine qu'évidemment, vous l'inventez au début. Moi, je me dis, il nous présente un personnage, ça pourrait être Sean Connery dans Le Nom de la Rose. Enfin, on se dit, c'est en tout cas un personnage aussi séduisant, aussi attachant, aussi beau, aussi intelligent. Sauf que Wilhelm a existé.
C'est Vandry. Oui, alors effectivement, ils commencent tous les deux par un W. C'est peut-être pour ça que vous avez fait le.
Je me suis dit. Parce qu'à un moment. Je fais l'assimilation parce que, à un moment, vous. Je probablement pas retrouvé la page, encore que ça ne va pas être très loin de ça. Puisque vous montrez le. Vous montrez, est-ce que vous montrez la quine, ou un bâton, en tout cas.
Oui.
Vous vous dites, c'est le bâton de Wilhelm.
Alors,
donc on se dit, du coup, si c'est le bâton de Wilhelm, c'est qu'il a existé.
Il y a une jolie anecdote sur cette photo. En fait, on a très peu de représentations de maîtres d'œuvre.
Je cherche.
On a très peu de représentations de maîtres d'œuvre parce qu'ils avaient un peu ce côté de l'anonymat, ce sens de l'anonymat. En revanche, les choses vont évoluer et il y a une tombe qui est celle d'Hugues Libergier, c'est celle à laquelle vous faites référence.
Croix celtique de Wilhelm, par exemple.
qui se trouve à Reims,
oui.
La tombe. Et sur cette tombe, on a effectivement la quine. Alors, c'est la quine d'Hugues Libergier que je mets en évidence pour montrer effectivement la réalité historique de cet instrument de mesure sur lequel étaient consignées les cinq mesures que sont la paume, la palme, l'empan, la coudée et le pied. Mmh. Et Wilhelm a existé, peut-être pas sous ce nom ou sous cette forme-là, mais des Wilhelm, il y en a eu jusqu'à Raoul Vergès. Au siècle passé. Mm-hmm. Ce sont tous ces maîtres constructeurs qui ont pris sur leur aile des jeunes apprentis pour leur expliquer les arcanes, pour leur expliquer comment on étudiait le soleil, la course du soleil, et ainsi de suite.
Ouais. Mais alors au 7e siècle, ce Wilhelm, quel que soit son nom, peu importe, ce bâtisseur, ce constructeur, il est héritier de quelle tradition ? Parce qu'on le voit très sûr de ce qu'il fait, avec une pratique infaillible, et vous allez expliquer cette pratique de l'orientation, dans un premier temps, de l'orientation d'un bâtiment par rapport à beaucoup de paramètres. Mais il est héritier de quoi et de qui ?
Alors,
au 7e siècle.
Au 7e siècle, la poursuite de mes recherches depuis l'apparition du livre montre que les Colombaniens avaient, ou en Irlande en tout cas, avaient cette connaissance de l'astronomie. On sait aussi que dans les monastères, il y avait ce fameux quadrivium qui était les quatre branches un peu mathématiques, scientifiques. Il y avait la musique, les mathématiques, la géométrie et l'astronomie. Donc, c'était déjà, entre guillemets, au programme dans tout le monachisme irlandais. Maintenant, ça remonte, il n'y a pas que cette filière qui était dans cette tradition. Les Romains l'avaient, les Grecs, bien entendu. Et les Phéniciens ont peut-être permis de faire diffuser cette tradition qui remonte, qu'on retrouve évidemment en Égypte, directement, entre guillemets, en Irlande. Mm-hmm. Alors c'est peut-être un vecteur un petit peu parallèle par le biais des Phéniciens qui a permis à toutes ces connaissances de se développer et puis de survivre. Mais on les retrouve aussi de l'autre côté du continent à cette même époque. Pensez à la culture maya. L'archéoastronomie a vraiment fait ses preuves, entre guillemets, sur ces
hauts plateaux,
où on a découvert que, les temples étaient aussi orientés en fonction de certains points comme les solstices, les équinoxes. Donc, c'est une tradition qui est une et qu'on va retrouver à travers différents courants religieux. Ou spirituel.
Dont le christianisme. Parce qu'évidemment, vous faites tenir à Wilhelm des propos théologiques, puisqu'il est là en charge de ce jeune Lucius pour lui expliquer non seulement la pratique et la technique des choses, mais leur raison profonde. Et la raison profonde, c'est évidemment la théologie même, c'est le texte.
Oui. C'était la chose, le défi principal, c'était de ne jamais sortir du contexte chrétien, de la symbolique chrétienne, rapportée au texte biblique. Mmh. Et puis,
avec les incursions païennes nécessaires, parce qu'elles y sont et qu'elles sont réelles, dans la pratique, pas dans le texte, mais dans la pratique. Oui.
Il y a ce fameux, cette fameuse transition entre l'époque romaine qui va voir la fin du druidisme et puis cette espèce de monastisme celtique sur lequel notamment Patrick d'Archeville a beaucoup écrit, où on pense que effectivement certains druides sont simplement passés, ont changé de vêtements et sont passés dans les monastères.
Avec dans leur bagage tout de même
certaines notions,
quelques croyances et quelques notions qu'ils ont conservées et réussi à appliquer d'ailleurs.
Absolument.
Sur des calendriers chrétiens, sur toutes sortes de choses. Vous expliquez aussi que le lieu lui-même a des vertus, on va dire cosmiques, c'est-à-dire des vertus géographiques, on dira, en relation au cosmos, tout à fait particulières. Et alors, l'ermite, celui qui trouve le chiffre 81 et qui passe toute la fin... Celui-là, il n'existe pas non plus, alors.
Alors, il y a une chose une piste peut-être à explorer. On sait que Saint-Ursanne, son hagiographie est anonyme. Mais elle précise quelque chose d'important. Elle replace le départ de Saint-Ursanne du groupe qui suivait Colomban à l'époque où justement le groupe va exploser à Bregenz. Mm-hmm. Or, ce que je suis en train de démontrer, c'est que à la latitude de Saint-Ursanne, de Saint-Gall et de Bregenz, on a ces mêmes rapports produits par l'ombre projetée par le soleil aux équinoxes et aux solstices. Donc ces trois endroits sont liés naturellement sur un plan astronomique. Donc, on peut en conclure que la géographie de Saint-Ursanne n'a pas d'intérêt sur le plan historique, mais qu'il a par contre un intérêt sur le plan astronomique, puisqu'il le relie Saint-Ursanne à cette étape de Colomban à Bregenz.
Mmh. C'est pas facile. Alors, donc... Vous avancez et vous l'avez dit. Non, mais c'est passionnant. C'est passionnant, mais en même temps, voilà, moi je suis pas historienne. Amalita, vous disiez qu'en lisant, vous aviez appris beaucoup de choses et que vous regardiez. Alors, en même temps, vous non plus n'êtes pas historienne, donc vous gardez un œil neuf, frais, en disant, une nouvelle manière d'aborder les constructions d'édifices religieux, de décrypter des symboliques qui jusque-là n'ont pas été décryptées de cette manière-là. Donc, orientation de l'édifice, qu'est-ce que vous avancez qui est nouveau et qui n'a pas été jusqu'à maintenant soit relevé, soit étudié, soit confirmé, et qui peut-être fait en ce moment grâce les dents de quelques historiens spécialisés dans l'architecture médiévale, exemple.
Sans rentrer dans le détail mathématique, je montre que...
C'est un peu compliqué, alors je préviens les auditeurs. C'est-à-dire qu'il faut quand même s'accrocher pour la mathématique. Si vous êtes nul en maths et en géométrie, allez-y quand même, parce que c'est pas si grave de suivre les équations et les calculs. Mais il faut s'accrocher pour les calculs.
Alors, je vais essayer de l'exprimer différemment.
Oui, il va falloir.
Finalement, une église, c'est la maison de Dieu. Donc, on essaye de créer un environnement qui répond à ses lois. La loi divine, la première, c'est l'harmonie. L'harmonie, on va la retrouver en géométrie, avec le nombre d'or notamment. On va la retrouver en musique, avec les accords musicaux. Et l'orientation de l'édifice à Saint-Ursanne suit cette logique de mise en harmonie. On a essayé d'utiliser ou de construire le plan au sol sur des proportions harmonieuses. Et c'est cette relation d'harmonie, on la retrouve dans la musique. Alors, c'est pas qu'on fait de la musique à Saint-Ursanne, mais on la construit selon des canons harmonieux que l'on retrouve dans les proportions musicales.
Du son. Oui.
Du son.
Des rapports de son les uns aux autres. Et on l'a construit de manière un peu particulière, apparemment, puisqu'il s'agit d'un tout un travail sur un travail de longue haleine, évidemment, mais ça, j'imagine que vous ne l'inventez pas, sur les ombres projetées. à partir, disons, d'un bâton. On l'appelait pas un bâton, c'est beaucoup plus chic que ça. C'est un gnomon.
Un gnomon.
Mais à partir d'un bâton, d'une certaine dimension. Et puis, voilà, le jeune Lucius a pour tâche de faire les repérages de l'ombre de ce bâton tout au long de la journée et tout au long des mois, entre solstice, équinoxe, etc. Ce qui donne, alors, vous faites des dessins, parce qu'en plus, il y a tout un travail graphique que vous avez accompli. Et donc, on obtient une sorte d'immense forme d'aile d'oiseau déployée, comme ça. Vous ne l'inventez pas, ça. Est-ce que vous êtes, par exemple, amusé, dans votre jardin, si vous en avez un, à planter un bâton, aller faire les relevés avec des petits bâtons comme ça tous les jours, et puis à passer des ficelles autour pour voir si ça vous donnait la forme requise?
Non, c'était
pas la peine, c'est déjà fait.
C'était tout aussi ennuyeux à faire, mais c'était de relever à chaque heure la position du soleil dans le ciel et de calculer l'ombre qui projetait pour vraiment faire ressortir cette figure. Donc je travaillais plutôt sur la trois dimensions, mais le résultat était le même, effectivement. J'utilise un logiciel d'astronomie professionnel qui me permet aussi de remonter dans le temps et de voir quelle était la position du soleil.
À telle époque, à telle période, etc. Oui.
Aux différentes époques, puisqu'évidemment il y a quelques petits changements. Afin de bien pouvoir imaginer ce qu'une personne qui aurait été sur place et qui aurait utilisé un gnomon dans ces conditions-là aurait pu effectivement obtenir comme longueur d'ombre.
Mais qu'est-ce que vous découvrez finalement avec cette forme de calcul et cette approche-là?
Alors d'une part...
Qu'est-ce que vous découvrez de nouveau?
Ce qu'on découvre à Saint-Hyacinthe, c'est que l'Église est un livre de pierre, c'est-à-dire que c'est vraiment un support pédagogique qui permet, ou qui permettait autrefois, aux novices, ou aux moines qui venaient d'arriver, de travailler justement sur cette application de l'astronomie, de pouvoir comprendre comment l'édifice avait été construit autour de ces principes. Et on en a...
Comme application de l'harmonie divine.
Exactement. Exactement. Donc c'était vraiment entre les travaux pratiques se faisaient à même l'édifice. On avait l'expression de ces différentes connaissances qui étaient intégrées dans l'orientation, dans la construction. J'aurais très bien pu imaginer une histoire au XIIIe siècle avec un autre Lucius qui arrivait dans ce monastère et à qui on faisait planter un gnomon au milieu du cloître, et on disait, ben voilà, maintenant, tu vas regarder un petit peu comment ça se passe. Oh, regarde, le chapiteau, il a 17 feuilles.
Alors oui, parlons comme exemple, c'est un bel exemple. Effectivement, à Saint-Ursanne, et puis vous l'inventez pas, parce qu'il y a des photos. Il y a des chapiteaux, et au sommet duquel sont peintes des végétaux, comme ça, genre, je sais plus, nord, sud, est, ouest. Alors, pardonnez-moi, mais c'est vrai que ça a probablement une importance, mais je l'ai oublié, mais d'un côté, un arbre, enfin une branche comme ça, 17 feuilles, donc 16, 8 et 8 plus une, et puis de l'autre côté, le même arbre, apparemment, mais à 15 feuilles seulement, donc 7 et 7 plus une.
Alors ça, c'était lié.
Et alors on se dit, erreur du peintre.
Erreur du peintre.
Il n'a pas bien compté, c'est quand même curieux. Non, pas erreur du peintre, selon vous.
Il y en a deux qui sont tombés à l'automne.
Oui.
Non, pas du tout. Effectivement, c'était un des chapiteaux les plus importants parce qu'il me donnait vraiment l'assurance que j'étais sur la bonne voie. Sans rentrer dans des calculs très, très compliqués, si vous avez un gnomon qui fait 100 unités, peu importe la taille de l'unité, 100 unités de haut, au solstice d'hiver, le jour où le soleil à midi est le plus bas sur l'horizon, eh bien vous allez avoir une ombre projetée de 289 unités. Et 289, c'est un chiffre un petit peu magique, parce que c'est 17 au carré. Et les 17 feuilles de ce chapiteau symbolisent concrètement
ce solstice d'hiver,
cette longueur d'onde de 289.
Ce chapiteau est donc au nord.
Ce chapiteau est absolument au nord.
Ouf.
Et le chapiteau qui est en face, qui lui a 15 feuilles, si on applique la même correspondance, ces 15 feuilles équivalent donc à 225.
C'est 15 au carré.
15 au carré. Et la différence entre ce 15 au carré et ce 17 au carré, eh bien, c'est 8 au carré, c'est 64. Et ces 64, c'est la distance qui sépare la longueur d'ombre au solstice d'été de la longueur d'ombre aux équinoxes. Donc avec seulement deux chapiteaux...
Et qu'on retrouve exprimé comment, par exemple, ce 64?
Alors ce 64, on va le retrouver uniquement à cet endroit-là, parce que l'écartement entre les deux chapiteaux vaut 64. Donc on a en fait l'échelle que l'on peut utiliser pour comprendre que la largeur complète de l'édifice, eh bien, il s'établit sur cette longueur de 289. Et que tous les autres rapports vont définir l'emplacement des colonnes, l'emplacement des contre-allées respectives, et que, véritablement, le plan au sol répond, s'inscrit dans ces différents rapports harmonieux.
Et dans tous les détails,
dans
d'ailleurs.
Dans tous les détails.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cette collégiale, un seul élément qui serait le fruit du hasard ou de l'inspiration un peu débridé d'un jeune apprenti qui se dit « Tiens, là, je vais graver un truc ». Non, rien n'est laissé au hasard.
Et c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de démonstrations mathématiques et géométriques, c'est pour bien montrer que le hasard n'existe pas. Il y a simplement un symbole qu'on lit mal ou qu'on ne sait pas lire.
Ou dont on a perdu le sens.
Mais ce symbole, il est pas équivoque. Donc, il n'y a pas de numérologie, par exemple, parce que la numérologie, on va réduire des chiffres et
on peut tout faire dire à la numérologie. Pas aux équations.
Non, pas aux équations, pas aux mathématiques, pas à la géométrie. Mmh. Et quand vous avez une superposition d'éléments mathématiques, géométriques, astronomiques, théologiques, vous vous dites, mais ces gens, ils étaient géniaux. Ils étaient juste extraordinaires parce qu'ils ont réussi à construire quelque chose qui intègre tous ces plans de manière harmonieuse. Et comme vous dites, c'est cette accumulation, cette sophistication qui fait que quand on est dans un édifice comme celui-ci, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose de magique. Parce qu'on rentre en résonance avec tous ces rapports, toute cette attention portée à l'harmonie et aux lois d'harmonie.
Amalita Brutus, quand on est face, alors portail sud, donc vous êtes en train d'enlever la crasse, la pollution, vous êtes face à ces résines en disant mais maladroits qui ont mis ça. Quand on touche à ce genre de pierre, à ce genre de travail, à ces sculptures, dans quel état d'émotion on est, sachant que voilà, on continue un travail de plusieurs siècles, voire d'un millénaire.
Alors on est dans un état, je dirais très humble, beaucoup d'émotions, parce que c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours un chantier aussi exceptionnel et magnifique, hein, qui est dans un, je dirais, malgré tout ce qu'il a subi, qui est dans un état de conservation assez exceptionnel. Donc il y a une grande joie comme ça, et puis on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup. Et en même temps, je veux dire, on va effectuer un travail qui va être très, très en retrait. Je veux dire, il n'y a pas histoire que j'ai signé, ni appliqué une couleur, ni modifié. Donc il faut être en même temps très, je dirais, très humble par rapport à ce qui a été fait. Et puis... ensuite, il y a quand on a commencé les travaux, donc on n'est encore pas en connaissance de cette nouvelle interprétation, cette nouvelle iconographie. La seule chose, il y a des choses qui sont, c'est vrai, très impressionnantes au niveau, je dirais, de la taille de la pierre. Je veux dire qu'il y a des choses qu'on peut voir que quand on a le nez dessous, hein, des détails juste très impressionnants au niveau de la sculpture. Puis à se demander, mais pourquoi est-ce qu'on va, je dirais même faire la lunelle de l'ongle de la Vierge qui est perchée dans sa niche, parce que personne
ne la verra.
Voilà. Donc je veux dire...
Dieu voit tout.
Oui, alors voilà. Donc on est très très impressionné. Alors après, avec en plus ce nouveau regard, donc c'est vrai que je trouve que ça prend encore plus d'ampleur, je dirais, que simplement, je dirais moi, la matière, la taille ou la couleur. Hein, je veux dire, peut-être qu'ici à Saint-Ursanne, la couleur a peut-être pas autant d'importance,
Il n'y a pas autant de symbolique derrière les couleurs que derrière les...
Si, il y a une symbolique. Oui. On utilise telle couleur pour tel personnage. Je veux dire, ça, il y a une symbolique. Il y a des études maintenant. Peut-être, il y a peut-être d'autres choses à remettre.
C'est Monsieur Passereau, toujours.
Mais je veux dire, par rapport, je dirais, en ayant aussi participé au portail de Lausanne. Lausanne a été sculptée en sachant qu'on allait la recouvrir de polychromie. Donc la polychromie est d'une grande richesse et très, très complexe. Tandis qu'un Saint-Ursanne, il y a une taille, je dirais, très fine. Et puis, à se demander si à l'origine, réellement...
On pensait à la couleur.
Oui, alors au tout moins, si elle était appliquée, c'est certainement cette manière très subtile pour accentuer certains détails, quoi. Alors, bon, là, il y a peut-être encore toute une autre phase recherche. Je me regarde avec des grands yeux. Non, la couleur est importante, mais je pense qu'il y a, encore pas mal de choses à étudier, à voir.
Alors, on a parlé un peu du premier livre. On ne peut pas rentrer dans les détails parce que vraiment, il faut lire pour savourer la richesse et la profondeur des choses que vous avancez. Deuxième livre, donc, il se déroule à notre époque, aujourd'hui. C'est une enquête. Une enquête de retour aux sources de la construction qu'un vieil homme fait en compagnie donc d'un jeune homme. Pour vous, ça a aussi pris la forme d'une enquête, un peu de la même manière, c'est-à-dire que vous êtes parti avec une intuition, une théorie que vous avez confrontée au réel, en découvrant, en avançant et en étant ébahi parfois, comme peut l'être le jeune homme, de ce que vous découvriez et de la manière dont finalement votre théorie construisait le réel et reconstruisait la collégiale.
Alors c'est vrai que la première version, parce que celle-là il n'y a que les relecteurs qui l'ont eue, reprenait un peu le modèle du premier livre. Le vieil homme, Alessandro, qui présente à Jonas les secrets de la collégiale et le jeune qui se laisse un petit peu entraîner par ses
découvertes. Oui.
Et puis les relecteurs m'ont dit, écoute, bis repetita, c'est pas très intéressant. Le fond est génial, mais la forme, ça va pas. Et ils avaient tout à fait raison. Donc je me suis dit, il faut faire une intrigue, il faut faire quelque chose de sexy, il faut qu'il y ait... Voilà. Alors, je suis sorti du schéma le professeur et l'élève pour rentrer dans le schéma l'énigme, le retraité qui a été professeur, qui a cet aspect de culture et puis qui habite à Saint-Ursanne.
Et qui s'est passionné pour la collégiale.
Absolument.
Qui la connaît par cœur.
Et puis le jeune qui est vraiment le scientifique, le futur
cartésien rationnel,
étudiant à l'EPFL, qui voilà, il faut que ce soit bien cartésien. Et tout d'un coup un parchemin, ben un code.
Encore une fois. Alors là, je vous arrête parce qu'il y a une photo. Il y a une photo. Alors, vous n'hésitez pas à faire intervenir le très fameux Sator, Arepo, Ténet, Opéra, etc. Ça, c'est une autre affaire. Mais il y a une photo
du parchemin.
Du parchemin. Ouais. Vous l'avez fabriqué de toutes pièces? Ne me dites pas qu'il n'y a pas de trésor à Saint-Ursanne, planqué par un vicaire.
Je ne vais pas vous le dire, puisque...
Débrouillez-vous.
Il y a la suite. Mais et c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui m'ont contacté par téléphone ou par email pour me demander d'où venait la grille. Ouais. Où est-ce que j'avais trouvé cette grille? Et c'est vrai que c'est un parchemin extrêmement intéressant parce que...
Bon, vous l'avez trouvé où alors?
Il y a tous les secrets de Saint-Ursanne dedans.
Vous l'avez trouvé où, ce parchemin? Il vient d'où?
Trois jours et demi de travail.
Ah oui, d'accord. Voilà. Pour le construire, pour le fabriquer.
Construire, ouais.
Voilà.
Et il n'y a pas une case qui n'est pas utilisée, mais dans ce livre, il reste encore un certain nombre de lettres qui n'ont pas été
Félix,
révélées.
Félix, par exemple, je n'ai pas vu le Félix, vous voyez.
Ah si.
Ah oui, je ne l'ai pas lu dans ce que vous avez...
Ah si, Félix, août.
Ça veut dire que vous parlez latin?
Alors, comme l'intrigue...
Félix Ruiz,
remonté.
Ah oui, siècle, heureux qui comme Ulysse, voilà.
Il fallait quand même faire ça en plus en latin, oui.
Ouais. Donc, ça veut dire que vous avez appris le latin rien que pour faire ça?
Non, j'ai fait quelques...
Vous aviez quelques notions?
J'avais quelques notions d'il y a très
longtemps.
Il est fou,
vous avez raison, Malita. En fait, il est complètement fou. Voilà. On a la réponse. Il est lettré, il est érudit, etc. Certes, mais il est fou également.
J'ai détesté le latin, en fait.
Ah oui, le gaffio. Ouais. Que de mauvais souvenirs. Alors ça, pour un piano bancal, je suis d'accord. Un gaffio. Donc voilà, donc vous inventez cette grille.
Voilà, qui va me servir de support pour amener les deux compagnons à découvrir petit à petit les différents éléments qui sont finalement les découvertes.
Et à mettre à nu cette collégiale.
Oui, absolument. Oui. Et l'aspect découverte, l'aspect fantastique pour moi, c'était une aventure extraordinaire parce qu'au fur et à mesure que j'écrivais les chapitres, il fallait qu'il y ait un fil rouge. Mais c'est là que je me rendais compte que j'avais certaines certitudes, mais j'avais pas le moyen de les expliquer. Mmh. Et notamment le chapitre où je présente l'étalon maître, ben c'est en écrivant l'histoire que tout d'un coup je me suis dit, mais mon Dieu, ça fait 10 ans qu'il est sous mes yeux, ça fait 10 ans que je le regarde.
Cet étalon maître?
C'est le fameux dont on parlait.
Oui,
tout à l'heure.
Sûr, oui.
Et donc je suis retourné le lendemain presque immédiatement avec tous mes instruments pour essayer de vérifier, et effectivement c'était ça. Donc même l'écriture du livre m'a permis de récupérer quelques petites pièces et de faire quelque chose qui est effectivement totalement cohérent, parce que rien n'est inventé. Dan Brown est devenu très populaire avec le Da Vinci Code, mais on peut rien prouver.
Vous oui.
Oui, parce que tout est là-bas. Et je donne justement tout ce qu'il faut pour que chacun puisse aller sur place et se faire son idée.
Et vérifier.
Et j'ai déjà certaines personnes qui m'ont dit oh, « on y est allé, c'est fabuleux ». Alors, ils étaient comme ça avec le livre, et puis ils se baladaient dans la collégiale, et puis « ah, oh, là, c'est là, ça, bah oui ». Alors, on va vite vérifier, ils sortaient le maître, ils posaient le maître par terre, et ah oui, bah, c'est bien ça.
Ah bah c'est juste.
Donc, c'est juste fabuleux, parce que ça crée un sentiment de chasse au trésor, et les gens sont oublie presque que c'est une église. Mmh. Et il rentre dans le mystère, dans la beauté de l'édifice, dans sa magie, on parlait de la magie tout à l'heure, et dans toutes ses subtilités.
Mmh. J'ai pas d'autres conseils à donner aux auditeurs que de prendre ce livre et de le lire. Ça se lit évidemment comme un roman. On y apprend des choses magnifiques, et même des toutes petites. Je prends un exemple, c'est-à-dire que je savais pas qu'une chapelle, ça venait de chape. Et ça venait de ce manteau partagé par Saint-Martin de Tours. Donc, partagé avec un pauvre qui mourait de froid. Hop, une protection, voilà, une chapelle, c'est donc cette chape, par exemple.
Ouais.
Petite chose comme ça, mais qu'il est utile de savoir.
C'est vrai que la forme du roman offrait vraiment une latitude extraordinaire pour un aspect pédagogique, pour un aspect de complément d'information. Et je me suis beaucoup inspiré de ce que Schwanner de Lubitsch avait découvert sur les temples égyptiens, à savoir qu'il y a différents niveaux de lecture. Et dans ce livre, il y a un niveau de lecture pour celui qui aime le roman, qui aime l'aventure. Il y a un niveau de lecture pour celui qui s'intéresse à l'art.
À l'histoire, voilà.
À l'histoire. Ouais. Et puis, il y a encore d'autres niveaux de lecture qui interpellent.
Pour quelques spécialistes, vous avez eu des commentaires ?
De
spécialistes, de ceux qui font le même travail que vous, mais peut-être un peu différemment.
Oui, et ça commence à intéresser beaucoup de monde en Europe, en Italie notamment, et en France. On va voir où ça mène, mais il y a effectivement, c'est un livre qui commence
à faire bouger,
ouais. Interpeller beaucoup.
Il y a une suite.
Il y a une suite.
On a le droit de dire ou pas ?
Oui, on a le droit de dire. Elle va porter sur Romain Meutier. Et puis il y a également...
Même travail. Vous partez avec vos gnomons, coudées, palmes, paumes et autres instruments de mesure. Et vous allez faire ce même travail.
Oui, sauf que je ne vais pas revenir sur les éléments qui ont déjà été présentés.
Bien sûr.
Mais il y aura une continuité à la fois dans les personnages du 7e siècle, Lucius, Wilhelm, Vendry, puisque Vendry est un petit peu le point commun entre Romain Meutier et Saint-Ursanne. Et puis également avec les aventures...
Vendry, donc fils de Clotaire, neveu de Clotaire.
Oui, il est affilié, mais il n'est pas en ligne directe.
Pardon, ouais.
Et puis, nos amis Alessandro, Jonas et la très jolie Laurie.
Celle-là, elle aurait finalement pu se passer de se pointer, finalement, vous voyez. Ben moi, non, je trouvais bien cette. Elle m'a énervée, Laurie.
C'est vrai.
Je l'aurais virée, oui. Tout de suite, à coup de pied.
Vous allez l'adorer parce qu'on va la retrouver à Romain Métier et elle aura un peu plus de présence. Et
on verra si c'est supportable.
C'est elle qui parle là-dedans.
Oui, mais enfin, bon, si c'est que ça. Franchement, on peut en trouver d'autres. écoutez, voilà. Saint-Ursanne, secret d'un livre de Pierre. Stéphane R. Claire. Alors, il paraît que c'est un secret.
Oui. Ouais.
Donc, on n'insistera pas.
Et le R est important pour trouver le site internet qui donne la liste des libraires. Ouais. Et puis, on peut l'acheter aussi sur internet.
Édition Gurganus. Et nous, de toute façon, sur le site de l'émission, nous avons mis en lien votre propre site. Donc, il n'y a pas de souci. C'est. Qu'on aime ou pas l'histoire, peu importe, c'est passionnant à lire. C'est véritablement passionnant.
Merci.
Amalita, vous l'avez lu, hein, jusqu'au bout.
Je l'ai lu, oui.
Voilà.
Relu.
Il y a intérêt.
Non, c'est vrai que c'est une nouvelle manière de regarder.
Je vous sens un peu déconcertée tout
mais
de même.
Mais moi, ça a remis quand même pas mal en question, pas mal d'interprétations de données qu'on avait. Tenu par des choses, je dirais, peut-être des interventions très classiques. Hein, et puis là, on remet pas mal de choses
en question.
Donc, ça ne va pas remettre en question le travail, l'intervention, mais
une approche,
un autre regard porté
sur les édifices. Merci à tous les deux, c'était un vrai plaisir.
Merci.
Merci à vous.
C'est la fin de cette émission préparée avec les collaborations de Stéphanie Gocci pour la production, de Stéphanie Jovanovic pour le titre musical et de Jean-Claude Gailly pour la réalisation. Juste après les informations, vous retrouvez drôles d'histoires, des histoires choisies et racontées par Lolita. Oui, merci Jean-Claude Gailly. On n'est pas retourné dans la collégiale Saint-Ursanne, tant pis, ça aurait été beau. Vous écoutez la radio Suisse romande de la première, il est 21h.